C'était il y a 200 ans, le 12 juillet 1817, à Concord, une petite ville du Massachusetts aux États-Unis, naissait David Henry Thoreau, qui changera plus tard l'ordre de ses noms, de ses prénoms. C'est un personnage intrigant, séduisant et finalement très moderne, qui a écrit, pensé et vécu dans cette petite région du Massachusetts. Pour nous en parler, Guillaume Villeneuve, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien ce personnage, vous avez même traduit un de ses livres, La désobéissance civile, aux éditions Mille et une nuits, et vous avez été séduit par ce personnage hors norme, et finalement, qui nous convient bien aujourd'hui.
Oui, il a beaucoup à nous dire, toujours. On lui a même attribué l'invention du mot écologie, comme vous le savez. En fait, c'est un Allemand qui a inventé ce mot en 1866 à partir du grec. Mais Thoreau, parce qu'on peut se demander d'ailleurs comment prononcer son nom. Vous savez qu'il était d'origine, en fait, Tourangelle. Sa famille avait dû, à cause de la révocation de l'édit de Nantes, prendre la fuite, comme tant de protestants, hélas, en France. Et ils s'étaient réfugiés d'abord à Jersey. Et de Jersey, ils ont émigré pour les États-Unis. Donc, quand on dit Thoreau à l'américaine, les Français pourraient dire Thoreau, parce que c'est son nom. C'est un personnage absolument fascinant, très indépendant, très sévère, épris de nature, misanthrope, qui va, comme vous le dites... intervertir l'ordre de ses prénoms, c'est-à-dire qu'il se nommera lui-même, qui va faire de brillantes études classiques, bien entendu, à Harvard.
Qu'il n'aimera pas.
Qu'il n'aimera pas, mais il fera de brillantes études en latin et en grec. Et insensiblement, son antiquité sera celle des Indiens. C'est-à-dire que de plus en plus, il sera fasciné par ceux que les Blancs, les immigrés européens ont chassé. Et donc, il se fascinera pour tout ce qui est vestige, trace laissée par les Indiens, aussi bien que par la nature, la natura naturans, si vous voulez, au point que les deux derniers mots de sa vie, comme vous savez, il meurt très jeune à 45 ans de la tuberculose qui a frappé la plupart de ses parents. Eh bien, les deux derniers mots qu'il prononce, c'est indien et caribou.
C'est étrange. Oui. Alors, il n'aime pas l'université de Harvard. Il trouve que c'est triste. Il trouve que l'enseignement qu'on y donne est rétrograde. Et il passe plus de temps à la bibliothèque. Mais là où il va passer le plus de temps dans sa courte vie, c'est dans les bois, c'est dans la nature. Il ne peut pas s'empêcher de marcher, et surtout de marcher pieds nus et de se baigner. C'est une marque de fabrique, marcher pieds nus pour lui.
Oui, alors il avait commencé après ses études d'enseigner naturellement, et puis très vite il s'en est dépris parce qu'à l'époque, comme vous le dites, l'enseignement était extrêmement sévère et par exemple les châtiments corporels étaient coutumiers et il refuse de fouetter ses élèves, donc il est obligé de faire autre chose. Il va faire toutes sortes de métiers, mais le métier qui va l'occuper le plus, c'est celui d'arpenteur. Et en effet, pour être arpenteur, eh bien, il faut marcher. Alors, ça nous fait aussi penser à la fameuse phrase de Platon, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Voilà, c'était au sens propre un géomètre. C'était un philosophe, Thoreau, et c'était un géomètre au sens le plus propre. Et puis, c'est quelqu'un qui réfléchissait sur la société.
Alors, il rencontre assez tôt, vers 1841, Emerson, Ralph Waldo Emerson. Qui est ce personnage qui a marqué les États-Unis ?
Eh bien, Emerson, ça va être le maître à penser de toute une génération. Il va inventer cette notion un peu fuligineuse qui s'appelle le transcendantalisme, que l'on pourrait raccourcir, enfin je veux dire abréger, en disant que c'était avant la lettre une recherche gandhienne de la vérité. Vous savez que Gandhi disait toujours qu'il recherchait la vérité. Du reste, Thoreau aura une influence profonde sur Gandhi, sur Tolstoï et aussi sur Martin Luther King, parce qu'il va développer la notion de résistance au gouvernement injuste par la non-violence.
Alors, avant d'en arriver là, il va passer 2 ans dans les bois. Il construit sa propre cabane près d'un lac qui s'appelle Walden. Il en tirera un livre qui est un modèle qui est à la fois romantique, écologique, d'une beauté d'écriture rarement atteinte, Walden, ou La vie dans les bois. Qu'est-ce qu'il va faire quand il est là-bas ?
Eh bien, c'est un petit lopin de terre qui appartient à Emerson, qu'Emerson lui prête, lui cède, et Walden décide de s'abstraire, de faire sécession en quelque sorte, de faire comme un moine, de faire comme un ermite, et il veut être autosuffisant. Il invente donc cette notion d'autosuffisance, d'autarcie, et qu'il va développer donc tout à la fois pour son logement, mais aussi pour sa nourriture, pour sa réflexion, pour la chasse, enfin la pêche. Et il va rester là 2 ans. Et le livre dont vous parlez, Walden, ça sera en fait un grand succès, mais qu'il va beaucoup réécrire. Et je crois qu'il y aura 4 ou 5 versions avant que le livre ne paraisse finalement en 1854. Mais en quelques années, il s'épuisera. Il faudra le réimprimer.
Alors, juste après ce séjour, il va en prison une nuit pour refus de payer l'impôt de l'État. Ça, c'est sa première manifestation de rébellion.
Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que il est profondément révolté que l'Union, les États-Unis, est une majorité d'États esclavagistes et que son propre État accepte de s'associer et donc, en fait, approuve par ce fait même l'esclavage. Et donc, et d'autre part, il est furieux parce que les États-Unis se lancent dès ce moment-là dans ce qui ne va plus cesser depuis, c'est la guerre du Mexique. On peut dire que la guerre du Mexique est la première guerre coloniale impérialiste des États-Unis. On est en 1845, si ma mémoire est bonne. Et vous voyez, ça fait presque 200 ans maintenant, et nous savons bien que les États-Unis n'ont pas cessé d'être un empire et de développer leur empire. Donc, pour ces deux raisons, Thoreau décide de refuser de donner son assentiment en refusant de payer l'impôt. Et donc, il est envoyé en prison. Malheureusement, il en est furieux. Sa tante paie l'impôt, donc, pour lui. Et ses proches ne cesseront du reste de le payer jusqu'à sa mort. Mais il passe quand même une nuit en prison. C'est pour lui.
Et c'était l'expérience. Voilà. Et il en tirera de cette expérience et d'autres un livre très intéressant, réédité aujourd'hui, La désobéissance civile, que vous avez traduit, Guillaume Villeneuve. C'est un livre important.
C'est un livre capital, c'est son livre le plus célèbre. Il y en a toutes sortes d'éditions et de traductions françaises. La mienne a une 20aine d'années. Et on peut dire que c'est de ce livre que Gandhi, Martin Luther King se sont inspirés, si vous voulez, l'idée de résister à un pouvoir injuste. Et la grande idée de Thoreau, c'est dire que, eh bien, un seul juste peut faire plus qu'une société injuste.
Alors, il va consacrer beaucoup de jours, d'efforts, d'écrits à lutter contre l'esclavage, à se battre contre l'esclavage qui est encore présent dans plusieurs États des États-Unis.
Absolument. On peut dire que un point vraiment saillant, ça sera son plaidoyer pour John Brown en 1859, lequel John Brown était pour lui un héros qui, avec ses enfants et quelques fidèles, avait décidé d'attaquer un arsenal, d'en prendre les armes pour armer des esclaves et se battre contre les esclavagistes. Or, l'équipée tourne mal, John Brown est arrêté, il y a même mort d'homme. Et John Brown est jugé, condamné pour haute trahison et pendu en 1859, le 2 décembre. Et malgré tout, Thoreau va prononcer un discours, plusieurs discours, à la gloire de John Brown, ce qui d'ailleurs nous ouvre les yeux, parce que vous parliez de la pertinence de l'actualité de Thoreau qui est né voici 200 ans. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui nous parle aujourd'hui, en nous parlant des esclaves, des réfugiés, des prisonniers, puisqu'il a connu la prison, et donc qui nous parle des gouvernements qui, après les avoir créés, ces réfugiés, par leur guerre et leurs bombes ou la poursuite du colonialisme, les abandonnent, ou mieux, ou pis, harcèlent ceux qui leur viennent en aide aujourd'hui en France. Encore. On sait qu'il y a des gens qui sont poursuivis.
Voilà. Pour avoir accueilli
et
des migrants.
Quand il dit exactement « qu'est-ce que j'entends jeter par-dessus bord », c'est-à-dire les corps des esclaves morts à la mer, et il nous parle de la Méditerranée, du détroit entre Anjouan et Mayotte. Et il nous invite à nous demander s'il est tout à fait décent aujourd'hui de rendre hommage aux héros ou aux victimes de jadis, de la guerre passée, la Deuxième Guerre mondiale, quand on y associe les oppresseurs du présent et on ferme les yeux sur des crimes comme l'occupation ou les colonisations.
Alors, Thoreau a toujours écrit son journal à l'incitation de son ami et maître Emerson. Et ce journal, il est rarement lu, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait inspirer nos contemporains.
Il est actuellement, je crois, en cours de traduction intégrale par Thierry Gilibeuf. Voilà. Mais il y en a eu un choix très très joliment traduit dans les années 30, qui est périodiquement réédité. Donc, vraiment, on a beaucoup de textes si on veut s'intéresser à Thoreau, qui, encore une fois, je vous dis, là, je parlais de John Brown, mais on n'imagine pas dans la France d'aujourd'hui, avec les lois qui sont votées ces jours-ci, et notamment l'état d'urgence, que quelqu'un puisse faire l'éloge d'un condamné pour haute trahison. Immédiatement, on viendrait l'arrêter. Voyez.
Alors, c'est pour ça qu'il nous parle aujourd'hui.
Nous parle.
Et que 200 ans après, on doit lire ce livre.
Absolument.
Merci, Guillaume Villeneuve.
Merci beaucoup.